Alors, on ne va pas continuer dans la ligne qu'on avait la semaine dernière, mais on va faire une introduction. Vous verrez que c'est une longue introduction en réalité. On va faire une introduction sur dévoiler la lumière, comment la révéler. Dévoiler la lumière. Comment dévoiler la lumière? Donc, on va lire dans Shemot, Exode, chapitre 27, et à partir du verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, donc dans le Mishkan, le tabernacle, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin, et pas du matin au soir. C'est une nuance importante, même dans la prière. En présence de l'Éternel, à croire que le Seigneur est plus présent la nuit que le jour. Ah, hein. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Donc c'est une loi perpétuelle. Il est vrai que le temple est en destruction actuellement, mais ce n'est pas pour autant que les choses se sont stoppées, arrêtées. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Mais en même temps, on ira un peu plus loin après en continuant. Donc, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que l'univers entier, le cosmos, visible, invisible, connu, inconnu, personne ne peut voir un atome. Pourtant, c'est ce qui remplit l'univers, mais aussi là, l'espace. Pourtant, on ne le voit pas, on a l'impression que n'est rempli que ce que nous occupons. Donc, c'est très important de comprendre que l'univers repose sur la lumière, qui est le principe premier de toute la création. Toute la création dépend de la lumière. C'est la lumière qui a été en premier, avant toute chose, et avant la lumière, il y a Dieu. Bereshit bara Elohim, avec le Aleph caché, imprononçable, invisible. Mais néanmoins, c'est cette lumière qui est fondamentale. Ce n'est pas l'astre, ce n'est pas le soleil, la lune, les étoiles. C'est une lumière qui n'est pas définie, mais qui révèle la dimension de l'infini. En même temps, il faut savoir que cette lumière, elle a été connue par le premier homme, Adam. Et que depuis la faute, depuis ce temps, depuis cette période, la lumière est devenue invisible, inaccessible, cachée, voilée. Trois termes qui sont importants. Et si on lit dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 15, « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède non pas l'immortalité, ça c'est un terme grec, et qui n'a absolument rien à voir avec la dimension de l'éternité. Et il faut bien faire attention aux influences platoniques, platoniciennes. Il faut faire très attention à tout l'aspect philosophique qui n'a rien à voir avec la révélation de Dieu. Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc c'est un verset très important parce qu'il nous démontre un certain nombre de choses concernant cette lumière. En même temps, qu'est-ce qui fait que la lumière va briller? Qu'est-ce qui fait que la lumière va révéler? Et je crois que c'est très important parce que l'une, et on en parlait tout à l'heure avec Martine, l'une des choses qui est la plus ancrée, la bénédiction suprême du peuple d'Israël, Elle est dans Nombre 6, 22. C'est Birkat HaKohanim, c'est la prière de bénédiction. On va la lire, hein, si vous voulez. Nombre 6, et c'est les derniers versets. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire, briller sa face sur toi, dans la réalité en hébreu, afin que tes faces soient éclairées, que sa face éclaire tes faces, tes différents niveaux, on y reviendra, et qu'il t'accorde sa chesed, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire parce que nous voyons bien que la plus grande des bénédictions qui est faite et que normalement est faite à Shabbat est donc d'amener cette bénédiction à l'intérieur de l'être. Vous bénirez les enfants d'Israël. Ce n'est pas simplement « Seigneur, bénis-le, garde-le, protège-le » et puis « à la bonne franquette hein, », comme on dit. Non, c'est quelque chose où vous placerez la bénédiction sur eux, sur leur descendance, et en même temps, ça va se faire par la face de Dieu qui éclaire la face de l'homme. Mais pas la face extérieure, ce n'est pas quelque chose, comme on l'a représenté souvent dans l'iconographie, quelque chose qui nous environne comme d'une aura, comme ça, visible, et puis de seul coup, on est dans une espèce d'illumination. C'est pas dans ce sens-là. Quelque chose qui est intérieur. Alors, le passage que nous avons lu tout à l'heure concernant la menorah et l'huile dans le Mishkan, il y a quand même quelque chose de très important parce que il y a ce qui est porteur de lumière. C'est la menorah. La menorah, c'est la pièce. Ce n'est pas la lumière, c'est la pièce qui permet de porter la lumière. C'est en quelque sorte quelque chose qui va être le symbole d'Israël, mais également qui va être un objet central dans le lieu saint, dans ce lieu caché par un premier voile. Et donc, cette menorah, elle avait une fonction très particulière, celle d'éclairer en face. Et donc, nous comprenons bien le rapprochement entre la bénédiction des Birkat HaKohanim et cette menorah qui est en face. Ce qui fait que dès que le voile, pour rentrer dans le lieu saint du service que devait faire le sacrificateur, inévitablement, la lumière était en face de lui. Et il ne pouvait pas l'éviter. C'était comme quelque chose qui était là, placé en face de lui et qui ne pouvait pas être déplacé. Donc elle éclaire en face, elle éclaire la face extérieure et en même temps, donc le visage hein, et tout l'environnement. Et ceci veut dire que derrière se cachait également l'autre dimension de la lumière qui éclaire et qui voit l'intérieur. Autrement dit, lorsque l'homme rentrait dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement l'extérieur que Dieu voit, mais son être intérieur. Et que son être intérieur, pour lui, n'était pas invisible, n'est pas quelque chose de caché. Alors, dans le Mishkan, pour que la lumière elle éclaire, il faut qu'il y ait une mèche pour que la flamme puisse s'élever. Et donc, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Celui qui allume la mèche, c'est celui, et ça, c'est fondamental à comprendre, hein. C'est pas n'importe qui allumait la mèche. C'était pas celui qui avait envie. Celui qui avait une révélation, celui qui avait le désir, celui qui simplement, d'un seul coup, a souhaité, une fois peut-être dans sa vie, le faire. Non, c'était quelque chose de très réglementé, et seul le sacrificateur devait le faire. Donc nous devons comprendre le rôle de la prêtrise, le rôle du prêtre, le rôle du sacrificateur. Et en hébreu, on dit « keouma », hein, le sacrificateur... celui qui est dans la prêtrise, c'est Keum. Alors, il y a différentes compréhensions, mais l'ultime raison est de bénir et d'être en bénédiction. Le rôle des Kohanim est d'amener cette lumière cachée, inaccessible dans leur environnement. Et on va voir au fur et à mesure la gloire de Dieu, parce qu'on va commencer à comprendre comment cette lumière vient en nous, comment nous devons la transmettre, comment elle éclaire, ou comment nous pouvons la voiler, ou la garder cachée, la garder invisible, en quelque sorte. Donc cette lumière cachée, elle doit être quelque part rendue visible. Et cette lumière, qui normalement est inaccessible, elle a un seul organe qui la reçoit dans l'être humain, le cœur, le lev, qui a comme première lettre le lamed, et le lamed veut dire d'abord correction, enseignement, instruction. Celui qui ne veut pas être instruit, corrigé, enseigné dans les voies de Dieu, ne peut pas recevoir la lumière. Il ne peut pas être éclairé, parce que autrement, nous allons chercher, et ça c'est presque inévitable, dans d'autres sources que Dieu, la compréhension de l'existence. On va chercher dans la philosophie, on va chercher dans le spiritisme, on va chercher dans les sciences occultes, on va chercher dans toutes sortes de choses. On va toucher à tout pour essayer de connaître, de savoir, d'acquérir. Et ce qui se révèle quand même au bout de quelques années, eh bien, c'est que la personne change constamment d'orientation parce qu'elle ne trouve pas. Et en même temps, elle reste dans une forme d'insatisfaction. Donc il faut bien comprendre que lorsque nous commençons à parler de cela, dans le lev, c'est l'enseignement du cœur. Et dans l'hébreu rabbinique, on dit la formation du cœur. Celui qui ne laisse pas se former son cœur dans les voies de Dieu, s'égare de ses voies. Et on va voir au fur et à mesure ce que cela signifie. Donc cette lumière intérieure, celle du cœur, hein, vous savez que la Bible parle énormément du cœur, hein, comme l'organe de la vie, hein, l'élément clé, à la limite, on pourrait dire, de la vie intérieure, la vie physique, mais la vie spirituelle. Et je crois que c'est très important, parce que la première des règles que le souverain sacrificateur ou le sacrificateur devait rencontrer dans son face-à-face, c'était l'enseignement de l'Éternel à lui-même. Il devait d'abord être confronté à quelque chose qui le confronte dans ses idéologies, quelque chose qui le confronte dans ses vérités à lui, car l'homme a ses propres vérités, car l'homme veut établir ses propres critères de fonctionnement dans le service divin, car l'homme voudrait tout simplement pouvoir établir les règles sans consulter l'Éternel, sans que l'enseignement de la Torah, de la Bible, ne lui soit donné ou transmis. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui, dans nos assemblées, sont en train de complètement dévier parce qu'ils font un enseignement personnel. Ils cherchent et on met en garde et on ne prend pas ça, on ne prend pas ça. Et finalement, on n'a pas compris qu'il n'y a qu'une seule lumière qui oriente, qui éclaire, c'est la lumière qui vient d'en haut. Mais cette lumière, ce n'est pas une lumière éblouissante. Ce n'est pas une lumière avec un faisceau lumineux qui nous bloque. On aimerait tous faire ce genre d'expérience. Mais l'Éternel a choisi un autre moyen d'apporter la lumière, d'être un porteur de lumière, d'être une menorah. C'est premièrement par l'étude et l'enseignement de la Torah. Yoru mishpatecha le Yaakov. Tu enseigneras, il est dit au Kohen, et il est dit au sacrificateur, et c'est l'une des choses les plus fondamentales. Tu enseigneras la Torah, la loi, à Yaakov, parce qu'il n'est pas encore Israël. Et aucun de nous n'est encore Israël à l'intérieur de lui. Mais il est encore dans la dimension de la nature de Yaakov. Il est encore dans quelque chose qui est dans l'apprentissage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, quelque part, il y a quelque chose auquel j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, pensé, regardé dans les fonctionnements, essayé de comprendre comment les gens pensent, comment on essaye d'établir les choses, et finalement, j'ai trouvé. Je ne peux pas dire avec une absolue certitude, mais avec moins de 1% d'erreur. C'est que, voilà, qui est ton enseignant dans le cœur? Alors je sais qu'il y a une grande mode, et on va la démoder. C'est celle de nous sortir un verset isolé, qu'on sera enseigné par l'Esprit, que l'Esprit nous enseignera. Quand j'écoute l'enseignement de ces personnes qui disent avoir l'Esprit pour enseigner, j'ai plutôt envie de me tirer que de les écouter. Parce que c'est incohérent. Et l'incohérence ne fait pas partie de Dieu. Dieu est obligatoirement dans la cohérence. Il est obligatoire qu'il applique les règles mathématiques. Il est dans quelque chose qu'il a transmis. Il ne dit pas seulement pour toi-même, il dit mais pour les enfants. Il dit à toi, mais également à ta descendance, et que c'est une loi perpétuelle pour toi et tous ceux qui viendront après toi. Ce n'est pas simplement quelque chose de passager, puis l'autre génération fera comme elle voudra, elle prendra l'enseignement, l'adaptera, la changera, la modifiera, la galvaudera. Non, il dit tel que, de là jusqu'à la fin, de là à la fin des temps, de là à la fin des temps. Et on le voit encore aujourd'hui dans le peuple d'Israël, ils appliquent ce qui peut bouleverser, changer la compréhension. C'est de réaliser à quel point ils sont dans cette règle, en quelque sorte. Alors, je vais dire des choses. C'est que très souvent, l'être humain, notamment l'Européen, l'Occident, d'une manière générale, veut se façonner sa propre image, sa propre règle, sa propre fonction dans le service de Dieu. Et Dieu dit non, il y a une règle de fonction dans mon service. Le Mishkan, c'est une règle de fonction pour me servir. Et ce n'est pas quelque chose que l'on adapte à son gré. Et pourtant, lorsque je vous écoute, lorsque j'écoute d'autres personnes, lorsque je me rappelle tous ceux que j'ai écoutés durant 30 années, me dire avoir reçu des choses de Dieu, avoir compris, enseigné ou dire des choses, je me suis dit, mais il ne trace pas des chemins dans les cœurs. En fait, l'erreur, c'est de comprendre qu'il n'y a aucun chemin dans les cœurs. On suit en fonction de ce qui peut se produire. Et l'Éternel nous ramène, tu enseigneras. Et enseigner, ce n'est pas simplement parler. Ce n'est pas simplement dire des vérités. Ce n'est pas relever des vérités. Ce n'est pas dire des choses vraies. C'est enseigner. C'est expliquer pour aller encore plus dans la profondeur de la profondeur. Et c'est pourquoi il a été établi de tout temps une hiérarchie dans le peuple d'Israël. Du Kohen Agadol au sacrificateur, au Sanhédrin, etc. Vous connaissez un peu le principe de fonctionnement. Et qui fait que c'est quelque chose qui fonctionne réellement, clairement. Et lorsque l'on commence à comprendre cela, eh bien, on voit que la règle, c'est qu'il y a dans nos formulations juives. Lorsque nous parlons de Moïse, nous ne parlons pas simplement d'un homme qui a été merveilleux dans l'histoire, un homme extraordinaire, un homme qui a rencontré Dieu face à face, un homme qui a été chez Béalpé bouche à bouche, un homme qui a ouvert la mer Rouge, un homme qui a vu le Sinaï, qui a vu la gloire, la Chesed, qui a tout vu. On ne parle pas simplement de ça. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de milieux ne parleraient que de ça, des manifestations. Mais lorsque nous parlons de Moshe aujourd'hui, lorsque nous mentionnons, et dans les écrits et verbalement, nous disons Moshe Rabbé. Nous disons que c'est Moïse qui a été notre maître, notre enseignant pour connaître Dieu. C'est lui qui nous a conduits à la connaissance de Dieu. Pas la connaissance intellectuelle, pas la connaissance philosophique, la connaissance dans la révélation de Dieu. Et il nous a introduits dans le nom, dans les noms ou les différents noms de Dieu, mais également les différentes facettes. Une deuxième chose, c'est que nous devons comprendre que cette lumière et cet enseignement va produire un résultat, un fruit, que l'on appelle la sagesse de la Torah, le Rochma. Et ceci doit être compris dans un certain sens, à la lumière de ce que dit Paul. Du reste, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de quelque chose qui est une folie. Parce que nous parlons de certaines choses qui ont eu lieu des millénaires en arrière. Nous ne parlons pas de quelque chose qui s'est produit il y a 10 ans. Nous parlons de choses comme Pessah qui ont eu lieu il y a des millénaires. Nous parlons de miracles qui ont eu lieu il y a des millénaires. Nous parlons de tellement de choses qui nous paraissent tellement lointaines. Et pourtant, aujourd'hui encore, nous disons il y a un Dieu. Et c'est vrai que c'est une folie. Et que nous croyons dans celui qui a été envoyé, Mashiach, Yeshua. Et que c'est une folie aujourd'hui pour les hommes. Il est mieux de croire en une ère, en un système, en quelque chose qui est relié au New Age, qui est collectif, qui va prendre de l'ampleur. Et il faut comprendre que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse humaine. Et Yaakov, dans Jacques, dans ses épîtres, dit que, on l'avait étudié sauf erreur à un moment donné, que même la sagesse à 3 dimensions, elle peut être divine, mais elle peut être diabolique. Et beaucoup l'oublient. Et on oublie que, quelque part, ce qui nous paraît être sage à nos yeux ne l'est pas forcément dans le vrai, dans la réalité de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu dans le cœur, et c'est vrai que ce n'est pas pour rien, à ce niveau-là, que nous appelons également l'ensemble de ceux qui nous ont transmis l'héritage. Nous les appelons nos sages. Nous les appelons nos maîtres et nos sages. Et lorsque nous nous référons, lorsque je me réfère à quelqu'un qui a existé il y a même longtemps. Je ne me réfère pas à un pasteur qui a été un passager dans ma vie. Je ne me réfère pas à quelques personnes qui ont été sympathiques dans ma vie. Je me réfère à ceux qui ont tracé des chemins, qui m'ont orienté, qui m'ont donné la direction, qui m'ont corrigé, qui ont eu le courage d'établir les réalités. Alors, il y a un paradoxe dans le terme de la sagesse. Il y a ceux qui jamais ne voudront se laisser enseigner. Ils sont trop orgueilleux, ils savent tout, ils se mettent au-dessus de tout. Moi, le Seigneur me parle, moi, le Seigneur me révèle, moi, le Seigneur m'a montré, moi, le Seigneur m'a donné, l'Esprit de Dieu agit en moi, plus rien, plus personne. Et puis, dès que quelqu'un veut te parler, c'est, oui, mais attends, il y a toi, il y a moi. Il y a toi, il y a moi, il y a moi, il y a toi, il y a ma moto. Mais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'il y a des cœurs impossibles à enseigner. Et c'est ce que les psaumes, d'ailleurs, abondent quand ils parlent d'insensé, de folie, de celui qui n'écoute pas, de celui qui ne reçoit pas dans sa raison le raisonnement divin. Alors, il paraît très, très fier de pouvoir dire « Ah, je suis le seul enseignant de moi-même sur terre. Je picore les vérités de droite et de gauche, et du modem, parce qu'il est modéré maintenant, et je me fais ma popote, et voilà, j'ai ma théologie, j'ai ma doctrine, j'ai mes convictions, j'ai ma façon de prier, j'ai ma façon de ci, j'ai ma façon de ça. Le reste, éliminé. Mais vous allez voir que justement ça va plus loin, c'est que l'Éternel, lorsqu'il veut nous former, et que nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas le summum, du summum, que nul ne possède totalement Dieu, ni sa révélation, ni sa connaissance, et qu'à un moment donné, il y a des critères que l'on va, je l'espère en tout cas, voir, qui sont extraordinaires. Parce que vous allez voir, quand on va rentrer dans la profondeur, dans le cœur, le milieu des choses, c'est quelque chose qui va certainement ôter les nuages. Donc le Kohen, il faut comprendre qu'il devient la mèche dans la menorah. C'est un élément étranger à ce que la menorah représente en elle-même, l'unité de Dieu. Et la mèche, c'est quelque chose qui est rajouté. Mais il est impossible, même si la menorah a la plus belle, la plus pure, la plus odoriférante des huiles, celle qui est la plus sainte des saintes, comme on l'a vu, elle a une préparation très spécifique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce que nous avons lu, qu'à un moment donné, celui qui veut vraiment avoir cette sève, cette huile d'olive, cette huile qui vient de l'Esprit, cette huile qui vient de Dieu, c'est la connaissance de Dieu qui est claire. Mais cette huile, elle doit passer par des phases. Et l'une des phases que l'on a vues, sur laquelle je ne vais pas trop m'arrêter, c'est que l'olive devait être avant concassée. C'est-à-dire que tant que, quelque part, notre orgueil n'est pas brisé, nos connaissances ne sont pas pilées, nos rébellions ne sont pas domptées, si on peut dire comme ça, et tout ce qui est un élément étranger, tout ce qui rend impur l'huile, impropre à la menorah, veut dire que, justement, notre cœur n'est pas docile. Et que c'est un long travail, et que c'était un long travail, que seuls les Kohen pouvaient faire. Seuls ceux qui connaissent les chemins du cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Seuls ceux qui connaissent le futur de l'autre. Celui qui connaît l'arrivée ou le cheminement. Et j'ai toujours été très marqué par l'histoire de Rabbi Akiva. Je le cite assez souvent, mais j'aime raconter cette histoire. Rabbi Akiva était un illettré, quelqu'un qui ne savait ni lire, ni écrire, quelqu'un qui n'était pas un intellectuel, quelqu'un... Pourtant, il a écrit l'un des plus grands ouvrages maintenant, référencé dans le judaïsme, qui est l'un des plus utilisés. Mais à la base, Rabbi Akiva n'était rien. Et personne n'est allé vers Rabbi Akiva dire « Oula, je vois en toi quelque chose d'extraordinaire et le Seigneur va agir dans ta vie. » Personne ne lui a dit ça à Akiva. Mais il y a la fille d'un rabbin. Qu'est-ce que c'est une fille de rabbe? À l'époque, c'était quelque chose de normal. Hein, ce n'était pas aussi strict qu'aujourd'hui. Et cette fille de rabbin, quand elle a vu Rabbi Akiva, son cœur l'a aimée. Et Akiva, il aimait cette femme. Mais la fille du rabbin savait que son père ne pourrait jamais accepter un Akiva qui serait au plus bas niveau, qui n'aurait pas le niveau de la connaissance. Mais la fille du rabbin, ce qu'elle a vu en Akiva, ça a été le potentiel du futur. Ça a été de voir ce qui était caché et qui pourrait un jour être révélé. Et Akiva est tombé amoureux aussi. Et il a compris. Il a compris qu'il devait suivre un chemin d'études. Il devait choisir un rabbe. Il devait choisir une ligne d'enseignement et pas 10 lignes, 10 mètres, 20 mètres, ni... plein de références et de référents. Ce qui vous pollue l'esprit aujourd'hui, ce qui ternit votre huile, c'est le nombre d'enseignements mélangés. Vous n'êtes pas pur dans l'enseignement. Non, non et non. L'enseignement n'est pas pur. Vous allez là, le dimanche, vous allez là-bas, et l'autre fois, vous allez là, et vous allez là, et vous touchez à ça. Et puis toujours dans une espèce de fausse révélation, le Seigneur m'a conduit, le Seigneur m'a montré. Et le fruit, c'est ça. Il n'y a pas un vrai fruit, durable, concret. Je suis peut-être sévère, mais à un moment donné, il est vrai que si nous voulons vraiment vivre Dieu, ce n'est pas en se fabriquant de manière virtuelle des maîtres ou des enseignements ou des enseignants ou des vérités, des pratiques. Elles doivent être concassées. Toutes concassées. Vous allez me dire, mais toi, Emmanuel, est-ce que tu l'as vécu? Moi, je peux vous le dire, 10 ans. Brisé, cassé, par quelqu'un qui était extrêmement, qui était un bois de... Hein, quel est le bois le plus dur déjà? C'est le chêne, un chêne. J'ai du caractère, j'ai du tempérament, mais j'ai trouvé mon maître. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai accepté le brisement, même injuste? Des trucs que jamais personne je ne verrai aujourd'hui accepter. Aujourd'hui, dès que c'est injuste, je change d'assemblée. Et tout de suite, on est en train de se plaindre et de dire... Et qu'est-ce que c'est ça? Et après, on dit, j'ai reçu pendant des années toute chose qui était à corriger, qui n'était pas bonne et que je ne voyais pas, moi, le danger dans le futur. Parce que nous, on se trouve bon. On se trouve bien, on se trouve amélioré, mais on ne sait pas et on ne voit pas que dans le futur, c'est notre chute. Et le rôle d'un maître, d'un rave, c'est de justement ôter la pierre. Mais le cœur rebelle, le cœur qui n'accepte pas l'enseignement du Seigneur, il ne le reçoit pas, il évacue et il continue sa route. Et vous en avez plein dans votre entourage que vous avez certainement connu qui ont chuté, qui ont dévié. Certains se sont pris, je pense que Martine se souvient certainement de ce groupe qui était parallèle, messianique, à l'époque de Paul, que j'ai juste un petit peu connu. Puis une fois, je me suis retrouvé dans leur groupe, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on m'avait embarqué là-dedans. Puis moi, j'étais juif, je ne voyais rien. Puis on commence à me dire, on prend une lettre, puis je vois une personne apeurée comme ça, qui me dit, je ne dois pas ouvrir la lettre. Moi, je n'ai rien dit, je n'avais pas l'habitude, moi, je ne suis pas né là-dedans. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que là, cette lettre? C'est du papier. Puis elle me dit, le Seigneur m'a donné des choses terribles là-dedans. Sur les catastrophes qu'elle est arrivée, je ne peux pas ouvrir la lettre. Moi, j'étais là, je commençais à prendre la trouille. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Puis c'était là à parler d'une certaine manière. Je me suis cru dans l'espace avec des cosmonautes. J'ai eu peur. Ils étaient tous là avec des yeux bizarres. Mais ils avaient l'air tellement sincères. Ils avaient l'air tellement vrais. Que je me suis dit... Je ne connais pas, j'ai toi à apprendre. Et je ne sais pas, mais peu de temps après, ces personnes se sont pris pour les grands prophètes de la fin des temps. Et vous comprenez que quand on n'est pas corrigé, la déviation s'agrandit avec le temps. Et ils ont commencé à se prendre pour les prophètes, à prophétiser des choses. Et puis finalement, ils ont vécu dans la polygamie. Finalement, ils ont été en Israël pensant qu'ils étaient les fils de l'huile, pensant qu'ils étaient les envoyés du Mashiach. Et tout s'est arrêté. Et encore aujourd'hui, les gens qui les ont connus sont marqués. Donc, à un moment donné, on peut toujours revendiquer, mais il y a problème. Et c'est pourquoi, lorsqu'on commence à comprendre que le Kohen, c'est la mèche, parce qu'ils sont en rapport avec l'onction, avec la dimension de cette huile sainte. C'est pourquoi on les appelle les séparés. Ceux qui ne sont pas mélangés. Ceux dont la pensée est pure, le cœur est pur. Et la Torah constitue leur ligne. Et que ce chemin, cette manière d'enseigner qui va conduire à une dimension, fait partie. Et c'est pourquoi, lorsque nous commençons à comprendre que ceux qui ont reçu l'onction d'en haut, eh bien, ils ont reçu pour l'enseigner, pour la transmettre. Mais comme je vous l'ai dit, avec la première lettre du mot cœur, du lev, la lettre lamed, elle veut dire instruire. Instruit l'enfant dans ses voies, et il ne les oubliera pas. Mais celui qui n'a pas d'instruction va dans les multiples voies, et il se désoriente totalement, au point de ne plus savoir ni qui il est à l'extérieur, ni qui il est à l'intérieur. Et beaucoup recherchent, ils recherchent la vérité, ils recherchent l'absolu, ils recherchent ce qui leur correspond le mieux, ce qui leur paraît être le plus juste vis-à-vis de certains versets bibliques. Et finalement, ils ont oublié que on trouve dans nos cœurs, psaume 84, on trouve dans nos cœurs des chemins tout tracés. Lorsque nous traversons la vallée de Bokim, la vallée des pleurs, la vallée justement du brisement, c'est là que nous trouvons. Et ce n'est pas simplement dans ce qui se fait peut-être de manière, c'est pas une critique, mais je trouve que c'est un peu rapide. Voilà, le Seigneur, tu imposes les mains, le Seigneur il me dit que tu viens, et puis voilà, et tu vas aller là-bas. Et voilà, et tu vas là-bas. Et ben, va là-bas. Et il y en a combien qui sont revenus brisés? J'ai connu des gens qui étaient des amoureux du Seigneur, mais vraiment. Et certains ont profité, et puis ils prophétisent, ils disent, voilà, le Seigneur va t'envoyer en Afrique, les gars, et ils ne savent rien de l'Afrique. Ni les coutumes, ni rien. Et ils ne sont pas habitués, ni à la nourriture, ni au climat, ni à quoi que ce soit. Et ils sont convaincus que Dieu leur parle. Et ils vont en Afrique et ils perdent tout. Quand ils reviennent, ils sont brisés. Même l'assemblée qui les avait envoyés ne priait même plus pour eux. C'était devenu des oubliés. Mais Dieu les avait envoyés. Et ça, c'est une responsabilité. Il faut faire attention. Il faut être prudent. L'enseignement, c'est justement quand il y a cette relation entre l'huile et la mèche. La mèche devient imbibée de l'huile. Et elle devient quelque chose qui va réellement être apte à porter la lumière, à être éclairée. Donc, lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que tout le monde ne peut pas enseigner. C'est pourquoi même, sans être trop d'accord sur tout, mais même dans Éphésiens 4.11, lorsqu'il est dit qu'il y a différentes catégories, je vais vous le formuler à la façon hébraïque, différentes catégories pour faire connaître le chemin de Dieu, et non pas des niveaux d'autorité qui supervisent les autorités, alors qu'aujourd'hui ils sont complètement à côté de la plaque, on met ce qui n'est pas réel, et on essaye d'établir des fonctionnements qui sont scabreux. C'est pas ça. C'est pas une domination de l'un sur l'autre avec une espèce de pouvoir supérieur sur l'autre. C'est en réalité celui qui va être à même d'orienter tout le corps du Mashiach. Ceux qui seront à même de prendre soin de ceux qui sont présents en petit nombre dans un lieu, dans une maison, dans un groupe, et qui vont orienter sans trahir, sans dévier. Et il y a, à ce niveau-là, un terme qui est utilisé, qui est le roé. Et le roé, ce n'est pas simplement un visiteur à biscuits. Il fait la visite, café, biscuit, et puis et une petite prière. Et j'ai fait ça pendant des années, mais ils m'ont tué avec ça. Ah purée, je ne veux plus faire ça. Et même si je reconnais le bien de visiter le malade. Et parfois, il faut avoir les mains libres, malheureusement. Et donc, c'est très important de comprendre que même celui qui est le chaliar, qu'on a appelé faussement apôtre, qui veut dire un envoyé, ce n'est pas quelqu'un qui est supérieur aux autres. C'est quelqu'un qui est capable d'aller dans tous les lieux et de pouvoir amener la connaissance de Dieu partout. Et d'établir dans un lieu la lumière divine, la connaissance du Messie. Et ensuite, il a, bien sûr, d'autres cordes à son arc. Paul était un rabbin, à la base. Ce n'était pas un ignorant des Écritures. Ce n'était pas quelqu'un qui sortait, il a vécu un miracle, ça y est, il est devenu le grand prophète de... Hein, aujourd'hui, c'est très comme ça. Non. Il a été établi, il a fait partie d'une petite assemblée avec qui il a été, Il a eu certainement des questions, des problèmes, des confrontations. Il a eu beaucoup de choses. Mais je ne veux pas m'orienter là-dessus. Il faut comprendre que la mèche est ce qui va apporter, porter la lumière, c'est-à-dire la flamme, hein, ce qui va mettre la flamme. Et donc, le Cohen, s'il est la mèche, il dévoilera la lumière dans le cœur de l'autre. Il dévoilera la lumière. Il amènera la lumière à être vue en lui-même. C'est-à-dire que le trois quarts du temps, quand je parle avec vous, quand je discute avec les gens, même les pasteurs, tout le monde, on a l'impression que la lumière est toujours voilée, que quelque part on ne sait jamais qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Même ce qui est clair n'est pas clair. Et que tout devient obscur. Et que dès qu'il y a des problèmes, d'un seul coup, l'incompréhension vient nous bousculer. Dès qu'il y a des souffrances, on ne sait plus prier, on ne sait plus faire confiance à Dieu, on ne sait plus comment se comporter. On essaye de tenir le choc. On essaye de tenir le coup. Et pourtant, ça nous amène plus loin. Parce que ce qui va être un secret, c'est que quand la lumière, justement, va pénétrer, c'est pas dénoncer, et là, on sort de l'habitude évangélique charismatique. Et là, on tape un coup dur à ça. Ce n'est pas dénoncer le mal chez l'autre, la lumière. C'est révéler l'amour de Dieu en l'autre. C'est pas pareil. C'est pas, vous savez, j'ai l'impression que les gens sont des pointeurs de doigts aujourd'hui. Ils regardent les gens avec une méfiance, avec un recul, avec une suspicion, toujours avec une crainte, toujours avec la peur d'être menacé. Et je me dis, mais ils vivent où, eux ? Même si c'est vrai, Dieu nous a envoyés vers les scorpions, dans le milieu des serpents, et pas vers les gens bien. Et il y a des gens, ils cherchent que les gens bien autour d'eux. Et c'est pas ça. Et si j'ai parlé comme ça, c'est parce que très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le doigt, on le pointe. Hein, lui, il a ça, elle, elle a ça, ou il faut te méfier de ça, ou il faut faire attention à ça, et puis le Seigneur m'a montré, et puis tu dois faire attention, et puis tu dois pas, et puis... Ça, c'est quoi ? C'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement. Parce que tu lui dis ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. Tu conditionnes une âme dans ta crainte à toi, alors que l'amour de Dieu est libérateur. Vous comprenez la différence ? Celui qui enseigne avec amour, en dévoilant la lumière dans le cœur de l'autre, il libère l'autre. Et non, le maintien lié dans une peur de démon, dans une peur de se faire attaquer, une peur je ne sais pas moi, des peurs qui sont quasi irrationnelles parfois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se préserver, mais le pur ne se mélange pas à l'impur. Et donc, si on va plus loin dans la pensée rabbinique, on va trouver que cela signifie la mèche, l'huile, etc. Alors il y a un terme que j'aime beaucoup. Quelque chose qui va commencer à toucher le cœur. On est au seuil. Donc dans la pensée rabbinique, il faut savoir que l'enseignement, c'est ce qui habille l'âme. Notre âme a besoin d'être habillée. C'est ça l'enseignement dans la pensée juive. Dans la pensée de Yeshua, quand il enseigne. Ce n'est pas pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas leur commander, leur interdire, les obliger, les menacer, leur dire si tu ne fais pas, hein, comme des fois on le dit très facilement, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas, tu vas en enfer. Et moi j'étais champion au début, comme je n'y connaissais rien, je prenais les gars dans la rue, je les levais comme ça, je disais, tu vas croire en Yeshua toi ? Et le mec il me disait, oui. Il ne m'a jamais accompagné nulle part. J'étais bouillon, mais j'y connaissais rien. J'étais sûr que le mec, il fallait qu'il fasse la prière avec moi en pleine rue, là-bas, en plein magasin. Eh oui, comme quoi. Le rabbi, il n'a pas toujours été équilibré. Mais il a cru en ce qu'il faisait. Par contre, j'ai amené vraiment beaucoup d'âme au Seigneur. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un cheminement de l'âme, de l'être intérieur dans son futur. Comment tu vas rencontrer, toi en tant qu'être fini, cet infini? Comment l'infini va-t-il correspondre à ce monde du fini? Et c'est pourquoi il y a toute cette dimension qui n'a pas été comprise. C'est qu'il y a le vêtement de l'âme. L'âme a besoin d'être habillée. Elle ne doit pas être nue. Elle a besoin d'être revêtue. Elle a besoin d'être dans quelque chose qui est revêtu, mais on va dire environné de bonté. L'âme n'a pas besoin d'être maltraitée. Et personne n'a le droit de maltraiter l'âme de l'autre. Or, le grand problème du corps du Mashiach, c'est sans cesse la maltraitance. On en parle dans les médias pour les enfants, mais c'est exactement ce que les adultes font dans leur rapport d'adulte. Lorsqu'on parle mal de quelqu'un, ne croyez pas qu'on l'aime, on le maltraite. Comment Dieu va-t-il recevoir? Tu penses que tu fais bien, et Dieu te dit tu fais mal, mais tu ne l'écoutes pas. Et tu continues, et tu propages, et tu vas parfois beaucoup plus loin. Donc, l'habillement, qui est le vêtement de l'âme, est dans une pensée que j'aimerais soulever, comment ton âme à toi, chacun de nous, quel est son vêtement? Et c'est le vêtement dont parle Isaïe le prophète, le vêtement souillé. Ce n'est pas un vêtement extérieur. Même Yehoshua, Zacharie 3, lorsqu'il est parlé de ce vêtement, et il était sacrificateur, qui lui a été enlevé, ce n'était pas physique, ce n'était pas un habit physique. Nous, nos habits, quand ils sont sales, qu'est-ce qu'on fait? On ne les laisse pas reposer une semaine et on les remet pensant qu'ils se sont lavés tout seuls, non? Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des habits qui ont besoin d'être dorlotés par une machine à laver. Au début, ça, vous avez vu? Moi, quand j'étais petit, je regardais toujours dans le boulot de la machine. La mousse. Oui, la mousse, moi, ça me fascinait. Parce que j'avais l'impression que tout se bagarrait là-dedans. Et tu voyais le truc de la chemise qui passe là, le pantalon qui passe. Puis ça ressort, il faut le sécher. Après, Mais imagine qu'une semaine après, tu as une telle foi. Tu dis, je vais mettre les habits et l'esprit va les laver. Et une semaine après, tu les remets et tu viens dans un lieu. Tu as tout le monde qui fait. Puis change de place. Et les personnes ne comprennent pas pourquoi on change de place. Mais il faut avoir de l'odorat. Vous comprenez comment ton âme, comment ton cœur est-il revêtu? Est-il revêtu de bonté et de justice ou d'hypocrisie, de fausseté et de mensonge? Tout est un revêtement. Tout est un revêtement. Tout. Et c'est pourquoi, lorsqu'on commence à rentrer dans cette dimension, il est vrai que l'habit va jouer un rôle majeur dans toute la Torah. Et c'est quelque chose que je crois important. Parce que nos vies ont besoin d'être revêtues. Et quand il nous est parlé d'être revêtus de l'Esprit Saint, vous croyez qu'il parle de quoi, Paul? D'une espèce de truc dont on ne sait pas ni l'origine, que c'est simplement une émotion qu'on ressent, une perception dans une fonction? Je me suis torturé 30 ans avec ça. 30 ans! Parce que je n'ai pas compris. J'avais eu la meilleure note en théologie aux examens. J'ai eu 18 sur 20 sur la doctrine de l'esprit. Mais je n'avais rien compris. Et j'ai eu 18 sur 20 en comprenant rien. Et ceux qui avaient compris, ils avaient eu moins. Il y a comme ça des mystères. Et c'est clair que j'ai essayé de comprendre, parce que je le disais moi-même, j'ai essayé de le vivre, de l'intégrer comme les autres le disaient, parce que c'était tellement irrationnel pour moi, que je me disais, il ne faut pas imaginer, voilà. Alors, Seigneur, donne-moi ton esprit, j'ai ton esprit, merci. Et après, on ne sait pas. On ressent, après on ne ressent pas, puis on ne comprend pas. Parce qu'il nous arrive des tuiles, on a des souffrances, des choses du passé qui reviennent, des problèmes, des conflits, des difficultés. Puis on dit, mais je suis revêtu. Mais on ne comprend pas. Et moi, je passais des heures à prier, à dire, Seigneur, il faut éloigner, pourquoi je sors, mais... 30 ans. Et je ne sais même pas si j'ai vraiment compris, mais je pense avoir une orientation. N'oublions pas que ce que j'ai capté se résume à quelque chose que l'on a vu, c'est que nous devons nous revêtir du Messie. C'est le Messie en nous. Parce que le Messie, le Machiar, c'est la Ménorah. Et il a l'huile. Il a l'esprit. Et c'est parce que le Messie est en nous que la joie agit en nous. Et non de manière comme la théologie a voulu le mettre en place, non de manière indépendante. L'Esprit Saint n'agit jamais de manière indépendante de Yeshua. Jamais. S'ils sont Echad, c'est impossible. Et j'espère qu'on va le voir. Nous devons revêtir le Mashiach parce qu'il est la lumière de Dieu. Il est la lumière des hommes et il est la lumière du cosmos. Il est le Fils né, la lumière et la vie. En lui était la lumière, et la lumière avait la vie. Et la vie était dans la lumière. Et les hommes ne l'ont pas reçu. Et c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Un monsieur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Oui, mais quand on dit la lumière, ben c'est l'enseignement. Ils n'ont pas reçu le fait que Yeshua puisse être le davar, la parole faite chair. Et à partir de là, les ténèbres sont devenues, écoutez bien, en hébreu veut dire obscur. L'obscurcissement a rendu ténèbres leur âme. Et la lumière n'a plus été. Le futur a été fini, invisible. Et c'est pourquoi on a des grandes théories aujourd'hui. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et nous avons toutes sortes de modes pour... On a l'impression que, quelque part, il y a une accélération, je pense qu'on peut le dire comme ça, d'amener la mort, quand on voit pas seulement les catastrophes naturelles, le Nord, etc., mais quand on voit un certain nombre de choses conçues pour la destruction, et... indépendamment des suicides, les meurtres qui ne cessent d'augmenter, mais également tous les autres moyens, les médicaments, tous les autres moyens qui sont soi-disant pour nous soigner. Mais en réalité, je crois que Martine et avec ton mari, vous pourriez nous donner une grande leçon sur tous les noms des médicaments qui te détruisent alors que toi, tu crois que tu te répares. Ce qu'on prit du Prozac pendant des années, c'est un raccourcissement de vie. Sans compter que tu peux perdre tes neurones. Et c'est démontré. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup alerté là, ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est cette façon de boire à outrance chez les jeunes, de plus en plus jeunes. Qui buvait vraiment à l'âge de 13 ans, à une époque? Un peu, on va dire un peu. Hein? Même pas, hein? C'était un enfant sage. Ah. Mais à l'époque, c'était tabou. D'abord, ça coûtait cher le whisky. Donc déjà, il fallait avoir du fric pour se l'acheter. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'aller dans un bar. Tu restes chez toi, tu vas sur Facebook et tu bois. D'une manière rapide, mais qui peut te tuer. Combien de comas éthyliques ? Combien de jeunes meurent ? Moi, j'ai vu des... Quand j'étais à Neuchâtel, j'ai été chercher des jeunes qui étaient morts par overdose dans les toilettes. De gens, parfois, dont je me suis occupé, de jeunes. Et il y en a... On a pu les sortir des griffes de la mort. Mais il y en a. Tu peux rien faire. Et ce qui était frappant, c'est de plus en plus jeune. C'est de plus en plus jeune. Déjà, à l'âge de 13 ans, ils raccourcissent leur vie, leur futur, de combien d'années ? La drogue qui détruit le raisonnement, l'intelligence, qui détruit tout le mode de fonctionnement que Dieu nous a donné pour aboutir, nous nous détruisons. Par le mal-être, par le fait qu'on se sent bien nulle part, parce que nulle part n'existe pas. Et donc, à chaque fois que nous comprenons que lorsque nous disons à un moment donné, Mashiach, viens, règne en moi, c'est prends les rênes de ma vie, dirige-moi dans le futur, c'est pas simplement donne-moi une émotion consolatrice, donne-moi une émotion passagère que j'aime mieux provisoirement. Ah, c'est déjà 5-10 minutes, mais que j'aille bien tout le temps. C'est ça. Viens, règne, montre-moi. Et comment il va régner ? Par les commandements, par la Torah, par la parole, par l'enseignement qu'il nous donne, mais aussi à ceux à qui il a transmis. Et Yeshua est le premier après Moshe à avoir donné une mission universelle à ses Talmidim. Lorsqu'il prend Pierre, Yaakov, Yohanan, etc., tous les disciples, il les prend, il leur dit « recevez l'Esprit ». Et cette réception de l'Esprit, ce n'était pas simplement le phénomène, c'était l'accomplissement dans l'enseignement de Yeshua pour accomplir le futur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des disciples. Ils n'ont pas fait une autre nature de disciples. Il faut bien comprendre. Ils ont transmis la même chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Yeshua leur dit à leur tour d'aller enseigner, d'aller annoncer, mais plus simplement de manière purement locale, hein, dans la zone géographique d'Israël, mais il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et le problème s'est posé quelques années plus tard, lorsque dans le monde des non-juifs, le fait que certaines choses ont commencé à dévier par les divergences qui se sont très rapidement mises en place, les contestations. Déjà du temps de Paul, Paul dit lui-même qu'il y en a qui a enseigné autre chose. Et qu'est-ce qu'il dit ? Méfiez-vous des faux docteurs. Faites attention à ceux qui vous ravissent, à ceux qui vous détournent. Et combien il y en a aujourd'hui dans les assemblées ? Mais combien il y en a ? Il y en a plein. Et le Seigneur me dit de te dire, parce que le Seigneur m'a montré, et le Seigneur, et les autres, il écrit les mots. Alors, il y en a des fois, moi il y en avait en Suisse, alors ça c'était des spécialistes, mais je raffolais de ça parce que j'aimais bien après avoir le tête-à-tête. Et une étudiante en théologie, tout le monde la reconnaissait comme une prophétesse, et moi je regardais, et on me dit, elle est comme des bourrages. Je dis, ah bon, oh là là. Et puis quand je la rencontre, et je la connaissais bien, on s'entendait bien. Puis elle me dit, mais Emmanuel, tu pourrais aller beaucoup plus loin, tu pourrais faire plus. Moi, je fais ce que je peux faire. Et je ne sais pas si je suis capable de faire plus, je fais ce que je fais. Et elle me dit, ah, et le Seigneur t'a donné une onction. Je dis, ah oui, une onction. Puis un jour, on était dans une grande convention de jeunesse et le Seigneur avait agi, etc. Libéré des dizaines de jeunes. Et tout à coup, elle vient avec un mot, elle me dit, tiens, Emmanuel, tu tiens ça secret, tu liras ça à la maison, surtout pas maintenant. Moi, j'étais là, je ne savais plus où mettre le mot. J'ai dit, je vais voir ma femme, je dis, on va donner le mot, mais le temps nous sommes là. Bien sûr. Parce que Corinne, elle sait, tu lui donnes. Mais c'est vrai, hein. Elle ouvre mes mails aussi. Et donc, je rentre et je dis à ma femme, viens, on va regarder qu'est-ce qu'elle nous dit. On pensait trouver un billet. Ah oui. Des fois, ça arrive, il y en a, ils mettent un billet. Ben, on ouvre, il n'y avait pas de billet. On a dit, bon, on va lire le texte. C'était, Emmanuel, le Seigneur te dit que c'est fini le ministère que tu occupes et que tu es fait pour aller enseigner dans toutes les nations. Tu dois quitter et vivre par la foi. Et le Seigneur va te bénir. Je dis, j'ai 4 enfants. Non, le 4e était en route. Il était à mi-chemin. Je dis, mais elle n'est pas bien, elle. Alors je suis allé la voir, j'ai dit, tu ne voudrais pas le faire à ma place? Parce que, franchement, écrire ce genre de bêtises, c'est quelque chose où tu mets le futur de quelqu'un en danger. Tu trompes l'appel et l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu ne te rends pas compte, tu l'as fait sincèrement, gentiment, avec amour, plein de bonté. Mais qui t'a animé pour écrire ça? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a des dangers auxquels les gens ne sont pas préparés. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Revêtir la lumière du Messie, c'est aussi recevoir dans l'enseignement, c'est aussi dans la contradiction. C'est aussi lorsque quelque chose vous déplaît dans vos convictions, dans vos doctrines, dans vos vérités, lorsque l'on annonce une ligne, une orientation, elle vient contredire la vôtre. Mais comment va-t-on marcher dans le même chemin, dans le même but, si on ne se confronte pas et que, quelque part, il n'y a pas quelque chose qui se fait dans le cœur, dans un cheminement pour aboutir. Et c'est pourquoi les divisions, les divergences d'opinion sont à la base de toutes, pratiquement, les divisions d'assemblée, même de couple. Parce que la contradiction ne fait pas partie de la culture occidentale. Parce que, quelque part, ce qui est contradictoire est rejeté. Vite, poubelle, Internet. Fichier n'existant plus. Fichier introuvable. Aujourd'hui, on est justement dans quelque chose qui fait que retrouver une véritable orientation spirituelle, retrouver véritablement un chemin, ça veut dire le confronter à ses propres idées. Nous croyons que nous avons la maîtrise, écoutez bien, nous pensons tous que nous avons la maîtrise de notre futur et que nous connaissons notre futur mieux que les autres. Vous voulez que je vous dise une vérité? C'est absolument faux. Alors maintenant, écoutez bien. Moshé, en descendant du Sinaï, qu'est-ce qu'il avait? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais dû y penser. J'y ai pensé, mais... j'y pense plus. Mais à part ça... Oui, il avait les tables et...
Non, mais son aspect...
Ah, le voile. Il a mis un voile sur son aspect. Il a mis un voile sur son aspect. Et pourquoi il met un voile sur son aspect? Faisait peur. Maman. Parce qu'il rayonnait tellement... que personne ne pouvait supporter son rayonnement. Mais quel était ce rayonnement? La Ruach, mais qu'est-ce que c'était plus exactement? L'enseignement qu'il a reçu de l'Éternel pendant 40 jours. L'enseignement qu'il a reçu dans le face-à-face, dans le Shebealpé, où Dieu lui a montré tout le Mishkan et tout l'enseignement était là. Et Moshe est devenu Moshe Rabbeinu, là. Il est devenu celui qui a transmis ce que le ciel avait pour le futur. Le Mashiach, les temps de la fin, tout dans la Torah. Et vous comprenez que ça va constituer l'élément clé. Alors qu'aujourd'hui, le paradoxe des paradoxes, c'est que la plupart des églises rejettent l'ancienne, même plus l'ancienne, le testament de Dieu. Rejettent la parole de Dieu, non pas un vieux testament ni un ancien. Rejettent la Bible, le Tanakh hébraïque, en disant, c'est pas pour nous. Il y en a un qui est spécialiste. Je me mords la langue pour ne pas dire son nom. Maman, c'est qu'elles font mal mes dents maintenant. Donc je fais attention, il faut que je mesure. C'est que, il y en a, il écrit un livre sur les fêtes de l'Éternel. On le prend comme référence en tant que non-juif. Moi je vous dis, ça c'est un faux. Ça c'est du faux dans la copie du faux. Hein, le faux copie le faux. Et il accentue le faux, et celui qui l'imite, il amplifie le faux. Voilà, nos générations, très souvent. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, à un moment donné, il parle sur les fêtes, machin, il se met en spécialiste parce que bonne écriture, bon machin. Et il va dire, alors là, c'est le paradoxe, si on peut me l'expliquer. Il dit, dans une forme de conclusion, je crois, sauf erreur, que tout ce qui est dit est juste à faire, à pratiquer, comme le Shabbat, les fêtes de l'Éternel. Et vous savez, sa conclusion, c'est « Mais ce n'est pas pour nous. Qui c'est pour nous ?» Donc tu le laisses aux Juifs, t'as raison. Et toi, t'es quoi? T'es quoi? Et c'est un enseignant. C'est un enseignant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un enseignant qui va conditionner des milliers de personnes ou les conforter dans des partages intérieurs de pratiques. Et il va devenir une référence pour ces gens. Et quand vous allez parler sur les fêtes de l'Éternel, eux vont dire, oui, mais un tel a dit. Et il a écrit. Et j'ai dit, mais moi, je ne le reconnais pas, Gugus. Je ne le reconnais pas parce qu'il dit que c'est vrai et il ne fait pas. Et il dit, c'est pas pour nous. J'ai dit, alors ça, c'est l'antisémitisme à son plus haut niveau. Ton antisémitisme caché derrière un faux amour d'Israël est ressorti, mon vieux. Et je me mords à la langue pour ne pas vous dire le nom. Mentionnez-le dans votre cœur, s'il vous plaît. Mais il faut être honnête. Vous voyez comment on enseigne? Par l'écrit, par d'autres choses, et puis en même temps, comme on aime bien, parce que l'affectif fait partie, on aime bien, alors automatiquement, on va dire, « Ah, mais c'est vrai, c'est pour les Juifs, les fêtes. Le Shabbat n'a jamais été pour les nations. » Non, dès la création, mais les non-Juifs n'étaient pas inclus. Hein, bah, il faut croire. Donc, à un moment donné, voilà. Et on se dit, aujourd'hui, à Torah, à Emet, ta parole est la vérité, la Torah est vérité. La seule vérité. Et si on allait loin dans le terme vérité, eh bien on verrait que ça va beaucoup plus loin que simplement vérité. Que c'est quelque chose qui va au-delà. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là maintenant. Moshe a un voile sur le visage pour ne pas irriter. Et ce voile, c'est un habit, nous est-il dit. Quelque chose qui a habillé la lumière de Moshe. Le rayonnement, la gloire de Dieu devait être habillée. Elle ne devait pas être vue par tout le monde. Elle ne devait pas irradier tout le monde. Elle ne devait pas toucher tout le monde. Uniquement ceux qui étaient ses proches. Et il met cet habit. Et la raison, c'est que la lumière de l'esprit était trop forte Et que nous, ce n'est que par le Mashiach que nous pouvons transmettre cette lumière. Parce que nous n'avons pas de lumière en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire « je suis lumière » sans le Mashiach. Mais avec le Mashiach, oui. Et c'est pour ça que nous pouvons contempler cette lumière. Et il est fondamental maintenant de comprendre que le Mishkan est fait de matériaux. Par contre, c'est très important à dissocier le Mishkan du service dans le Mishkan. Le Mishkan, on peut prendre tous les matériaux que vous voulez. Tous parlent du Messie, les longueurs. Et c'est vrai que lorsque nous parlons du Keresh, allez, je vais vous donner ça. Le Keresh, qui sont les planches au nombre de 70 reliées entre elles pour marquer l'unité. Vous changez dans les lettres de Keresh, il y a trois termes, mais je ne vais pas vous les donner tous, je vais vous en donner un. Un terme, ce qui n'est pas aligné dans les dimensions de l'éternité, dans les dimensions de Dieu, ce qui n'est pas relié dans l'unité du corps du Mashiach, ce qui divise, ce qui prend d'autres mesures, qui s'élèvent et qui font des espèces d'adaptations, il devient choker. C'est les mêmes lettres, pas dans le même ordre, et choker, ça veut dire mensonge. Celui qui sort du plan de Dieu dans la construction du Mishkan, il plonge sa neshama, son être intérieur, dans le mensonge, dans l'illusion, dans quelque chose qui n'a pas de futur. Et on pourrait aller plus loin avec Keresh et j'en parlerai peut-être un de ces quatre. Mais je crois que c'est très important de savoir qu'un même mot, dans l'hébreu, dans la pensée de Dieu, peut avoir différentes facettes en fonction de la manière dont nous nous habillons, de la manière dont nous recevons l'enseignement du Seigneur. Par contre, le Kohen, doit avoir des habits spéciaux. Ça, c'est le chapitre 28 dans lequel nous entrons. Et en hébreu, il faut savoir que c'est différent parce que les vêtements, ils devaient être pas des vêtements comme les autres vêtements. Ça devait être des vêtements saints. Alors est-ce que ça existe des vêtements saints? Eh oui, il faut se poser quand même la question. Dieu dit à Moshe, vous confectionnerez spécialement pour les Kohen des vêtements saints. Et des vêtements saints pour leur permettre de se présenter avec gloire, kavod. Ça, c'est le terme hébreu qui est utilisé dans Exode 28. Pour qu'ils se présentent, écoutez bien, dans le poids de la présence de Dieu, dans ce qu'ils sont dans leur âme, dans les mots qu'ils prononceront dans la prière, dans la bénédiction, c'est d'avoir un poids devant Dieu, un poids qui n'est pas un poids, parce qu'il y a la plus petite unité de mesure. Et il y a la mesure la plus lourde. Et notre vie devant l'Éternel, lorsque nous nous présentons devant lui, lorsque nous venons à lui, de quoi sommes-nous revêtus? Quel poids avons-nous devant lui pour dire « Seigneur, exauce ». Est-ce que nous croyons qu'il suffit de faire ce que beaucoup font, des hurlements avec des cris, des coups de poing partout, des arcs qui partent, des flèches. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et même il y en a qui sautent et qui écrasent les serpents. Alors que, dis un mot, ton serviteur sera guéri. Et on est confondu. Et il est vrai que pour qu'il se présente avec le poids, avec ce qui a du poids, et vous savez ce que le deuxième terme qui est employé, qui est tiferet. Et tiferet veut dire, il se présente avec un poids de splendeur. Le Kohen, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas Dieu qui est là comme ça, qui le regarde, l'analyse sous toutes les coutures, et qui le méprise, et qui, quelque part, vous savez, le milieu évangélique charismatique, des fois, a un peu cette attitude de jugement de l'autre. Il juge la façon de prier de quelqu'un, juge la manière dont il vit sa foi. Il y en a qui ont compris depuis des années, d'autres n'ont pas compris après 10 ans. Eh bien, laisse-le cheminer jusqu'à ce qu'il comprenne. Arrête de t'en occuper. Sois un modèle. Et il en aurait besoin, oui. Et lorsque on comprend comment Dieu regarde, il dit, pour que le Kohen ait un poids de gloire, pour que cette gloire, son poids, sa splendeur, sa beauté, son amour rayonne en ma présence, alors c'est le mot Tiferet. Le Kohen, quand il se présente, ce n'est pas simplement pour dire tous les péchés du peuple. Et tu vois, Seigneur, ce peuple au cou raide, et tu vois comment il sent, et l'autre, il n'a pas fait le sacrifice, il m'a roulé de 2 euros. Et il n'a pas voulu payer la colombe, et l'autre, il a foutu le camp. Hein? On ne parle pas comme ça. Et après, 10 minutes après, allez, Shabbat, Shalom. Seigneur, fais descendre la gloire. Quelle inconséquence. Des vêtements saints. Quand tu viens pour adorer Dieu, un, tu pionces pas. Moi, je ne dors pas ici. Ça paraît sévère. Mais où c'est qu'on a pris ces habitudes qui manquent de respect à Dieu? Où est-ce qu'on nous a appris? Et c'est vrai que des fois, j'ai été étonné. Quand j'étais en Suisse, tout jeune croyant, et on avait été dans une... J'étais en première année de théologie et on cherchait un lieu pour aller adorer Dieu. Et on va dans un lieu, on ne connaissait rien là-bas, hein, des églises, comment ça fonctionnait, comment ils s'appelaient. Nous, l'essentiel, et vas-y, nous, plein de feu et de joie. Et puis il disait, moi, je n'avais pas cru, je croyais que c'était un lieu vivant, moi. Je ne savais pas que c'était le cimetière où il fallait hôpital silence. Et à un moment donné, ce qu'on appelle normalement la Sainte Cène, ce que l'on appelle ce moment sacré, les gars viennent en short et t-shirt. Et à la décontracte, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Paul Grinasek était très strict. Ça m'avait surpris. Et puis, presque abaillé, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment nous nous présentons? Alors ça, c'est extérieur, mais intérieurement. Intérieurement, quelle sorte d'habit on a? Est-ce qu'on est revêtu d'habits saints? Ou est-ce qu'on est avec des pensées malsaines, habillés de méchanceté, de règlement de compte, de haine, de non-pardon? De quoi sommes-nous habillés? Et lorsqu'on vient devant Dieu, on croit qu'on a du poids, mais le poids est perdu. Il n'y a pas de splendeur. Il n'y a pas de Tiferet. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il est dit, je vous le traduis dans la pensée hébraïque, et tu parleras, chapitre 28, et à partir du verset 1, dans le cadre de Exode. Et tu parleras à tous ceux qui ont la rochma. Vous avez vu comme ça change? Tu parleras à tous ceux qui ont la rochma, la sagesse. Tu ne parleras pas aux sots, comme dit les proverbes. Tu ne parleras pas à l'insensé, à celui qui méprise, qui ne veut pas écouter, qui pense qu'il a tout. Et c'est vrai que j'ai vu des gens inenseignables. Il y a des gens, c'est pas possible. Tu leur dis un truc qui te sort de machin. Tu dis, ok, laisse tomber. Machiar cherchait des disciples. Il avait plein de gens plus intelligents que les siens. Il avait plein de gens avec des dons supérieurs à ceux qu'il avait choisis. Il y aurait eu plein de gens dans tout Israël avec un potentiel, avec de l'argent, des finances, avec tout ce qu'il aurait fallu pour faire. Et pourtant, il va choisir ces 12. Et c'est pourquoi nous devons comprendre, tu parleras à ceux qui ont la rochma. Tu ne parleras pas, autrement dit, mamarot, tu ne diras pas ce qui vient d'en haut, dans le cœur du sot. Celui qui n'a pas d'écoute. Celui qui ne corrige pas son cœur. mais seulement à celui qui a l'intelligence du cœur. Et c'est ça la sagesse, c'est l'intelligence du cœur. Or, trois choses. Il y a ce qui a du poids devant Dieu. Ce qui a du poids devant Dieu, c'est quand nous menons une vie droite et juste. Ce qui a une beauté intérieure, elle est liée à l'humilité. Et non quelqu'un qui s'élève et qui veut montrer, paraître par sa lumière dans son savoir, briller devant les gens, mais c'est temporaire. Et des prédicateurs et des gens qui étaient des lumières passagères, il y en a eu dans l'histoire. Il y en a eu dans l'histoire, et peut-être vous en avez connu. Et des gens qui étaient tout feu, tout flamme, tout bouillant, on leur a tout donné, des gens qui donnaient l'impression d'avoir vraiment la bénédiction de Dieu avec eux. Un an, deux ans, peut-être 10 ans, et ils s'éteignent. Et c'est une analyse à avoir aujourd'hui. Si je le donnais à des pasteurs, l'approfondissement irait beaucoup plus loin pour eux, mais avec plus de responsabilité. Parce que l'humilité est devenue absente des cœurs. Tout le monde veut s'élever, tout le monde connaît, tout le monde sait, tout le monde a lu, tout le monde a vu, tout le monde veut le savoir, tout le monde est dans la connaissance, tout le monde veut posséder, et surtout pour dominer l'autre, pour justement contredire ou ne pas se laisser enseigner. Le troisième, c'est ceux qui ont la sagesse. Et c'est celui qui enseigne les voies de Dieu, qui sait les enseigner, qui montre la direction, qui oriente dans la direction, mais qui va aimer son disciple. Ce n'est pas ces pasteurs qui, parfois, pardonnez-moi si je dis ces pasteurs, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais je l'ai tellement vu en Suisse, et jusqu'à l'heure actuelle, c'est une hécatombe, une catastrophe. En France aussi, c'est des divisions, c'est des ruptures, c'est des assemblées qui ont existé, vraiment, le Seigneur agissait, puis, tac, d'un seul coup, il n'y a plus rien, parce que la reprise, malheureusement, parfois, a beaucoup divisé. Et ce que l'on doit réaliser derrière tout ça, c'est que celui qui enseigne les voies de Dieu doit aimer le cœur à qui il enseigne. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'aimer un cœur rebelle. Un cœur qui te contredit tout le temps. Un cœur qui ne veut pas, quelque part, accepter. Mais qui voudrait, lui, t'enseigner. Et souvent, c'est le rapport de force que l'on peut avoir spirituellement, vous et moi. Il y a quelque chose, vous ressortez quelque chose. On dit, on va prendre cette ligne, vous dites, non, on va... Un jour, c'est, prends ta ligne. Je suis tellement plein d'amour que je vous laisse prendre la ligne, mais sans moi. Sans moi. C'est tout. C'est tout. On ne va pas se disputer 1000 ans. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est là qu'on voit ceux qui veulent suivre Dieu parce qu'ils ont la vue, la compréhension de l'accomplissement. Parce qu'ils ont le futur dans leur cœur et dans leurs mains. Et ils n'ont pas simplement des idéologies de mode. Des idéologies présentes dans la mode d'aujourd'hui, où on essaye de nous montrer les nouveautés, et les nouveautés qui sont d'importation. Et elles sont toutes passagères, elles ont toutes une durée de vie relativement courte. Quand on nous a sorti les huiles et les plumes, qu'est-ce qu'on nous a sorti encore là ? Je ne me rappelle même plus. Ah oui, les anges, il y avait les anges, oh là 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 là. Ah, les dents. Ah oui, il y a eu des dents. Moi, j'aurais... Hein? Non, mais, vous comprenez, on nous a sorti de ces machins. Combien de temps ça a duré? Les slogans avec grand ministère à la clé, milliers d'euros partout, tous les soirs, et on va inonder Paris, Paris dans la gloire, tout le monde va croire. Vous avez vu l'économie? L'antisémitisme? Et où était Israël? Et où était le cœur de Dieu dans cette ville? Où était normalement l'interpellation que les églises auraient dû avoir dans l'intercession? Dans l'écoute de ce qui allait arriver en France, ils ne l'avaient pas. Ils ont vu en tant que faux prophètes leur intérêt, c'est Bilam, c'est l'ère de Bilam, c'est de voir comment on va soutirer pendant un temps au nom de l'Éternel et on se retire. Et c'est exactement ce que tous ont fait. Et aujourd'hui, que reste-t-il, non pas de nos amours, mais que reste-t-il de ces passages, des déçus, des déceptions, des gens trompés, qui quittent, qui ne veulent même plus appartenir à personne, qui ne veulent même plus financer, ni aider le Seigneur à construire son Mishkan. Parce que, abusés, trompés. Et on leur a dit, à tue-tête, avec musique à l'appui, à la Divine Liberté, dans une somnolence intérieure. Vas-y, donne 1000 euros ce soir. Même s'il n'y a sur ton compte que 400, dans 2 semaines, le Seigneur va les combler. Allez, tu as du fric de côté, donne 10 000 en une soirée. Et vas-y, pour le Seigneur, pour le monsieur qui est venu, et pour ça, et pour ça. Et tout cet argent a été détourné. Écoutez bien, de ce que Dieu aurait voulu faire dans la ville pour les pauvres, pour aider ceux qui sont malheureux, la veuve et l'orphelin. Et ce que dit la Torah, c'est que cet argent aurait dû aller à eux. Et il a été détourné pour que monsieur s'achète peut-être le nouveau modèle de la Volvo. Je suis d'accord qu'on puisse donner, qu'on ait de la générosité, ça, j'ai rien contre. Mais pas lorsqu'on détourne au nom de Dieu, en utilisant une espèce d'onction de choses et qu'on fausse, c'est qu'après il reste quoi? Et aujourd'hui, tout le monde dit on n'a plus. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de souffrances et de difficultés. Donc, vous comprenez que l'enseignement n'est pas à prendre à la légère. Ce qui est dit, mamarot, c'est aussi dibour, tu parleras. C'est aussi dans le sens de parler du verbe, de l'action qui entre en toi et à laquelle, normalement, tu es censé, si c'est de Dieu, recevoir pour pratiquer, obéir. Et non pas pour te faire abuser, tromper, manipuler, déshériter. Parce que toutes ces personnes... Et moi j'en rencontre beaucoup lorsque je vais en Suisse d'ailleurs, ce week-end j'y serai prié. Eh bien, tout le monde, aujourd'hui, pratiquement, que ce soit mon beau-frère qui ont servi le Seigneur, des jeunes que j'avais amenés, qui servent le Seigneur et tout, ne trouvent plus un lieu pour Dieu. Parce que c'est du n'importe quoi. Même mon fils Ben, il s'est rattaché à un groupe de jeunes là-bas. Il me dit, mais papa, ils sont sympas, mais ça ne va pas plus loin. C'est presque l'identique que s'il n'était pas à Yeshua Mashiach. C'est simplement une question intellectuelle, une question de conscience. Le Cohen, pour vous dire, pour approfondir et je conclurai, devait porter 8 habits. Ça veut dire qu'il était revêtu, parce qu'il devait à chaque fois revêtir ce dont il s'était vêtu. Et à chaque fois, il y avait une augmentation du vêtement. Ce n'était pas un vêtement, c'était 8. Les 8 vêtements, c'est 8 habits de la Neshama, c'est 8 habits de l'âme. Nous avons 8 revêtements que Dieu nous donne dans la Neshama, dans l'âme. Il y a 8 vêtements de l'âme, il n'y en a pas un, il y en a 8. Et il est clair que plus on va dans l'approfondissement, plus on réalise à quel point la Shekhina peut nous être difficile d'accès. Et en même temps, si je suis revêtu, c'est que je me présente. Si je suis nu, je suis éjecté. Que dit l'Apocalypse ? Que tu sois trouvé vêtu et non nu. Mais pas toi, physiquement, parce que c'est pas ta, le steak, la viande qui va aller là-haut. C'est que ton âme, elle est les vêtements du salut. Que ton âme est les vêtements du salut. Et c'est vrai que, je vous l'accorde, vous comme moi, on a tous mis beaucoup de temps à peut-être comprendre qu'est-ce que ça voulait dire un vêtement du salut. De revêtir les vêtements du salut. C'est pas simplement de Yeshua, mais quels sont les vêtements de Yeshua ? Ayez en vous les sentiments. Hein ? Et soyez remplis de la douceur du Messie. Soyez remplis de l'humilité du Mashiach. Vous comprenez ? Il y a un tas de choses qu'aujourd'hui on a négligées pour mettre en évidence une puissance dans les mots, dans les aspects charismatiques, c'est-à-dire du charisme, de la personne, de la brillance, d'être quelqu'un qui fascine un auditoire, qui le subjugue au travers des mots, parce que c'est toujours le secret. Un séducteur séduit, non pas parce qu'il est beau, parce que vous avez vraiment des mecs moches. Hein. Et puis, ils ont des belles nanas. Et tu dis, mais comment il fait ? Moi, il sait leur parler. Moi, on m'a toujours dit, Emmanuel, tu sais prier Dieu, mais tu ne sais pas parler aux femmes. J'ai dit, ça, c'est vrai. Je ne sais pas. Moi, d'ailleurs, tant mieux. Comme ça, on me fout la paix. Et donc, non mais au moins je suis parlé à ma femme après 30 ans, alors je commence à savoir lui parler. Puis elle aussi, remarquez. Mais, dans le sens qu'il nous faut savoir que à un moment donné, être revêtu, avoir une âme revêtue, ce n'est pas la laisser dans la nudité de la faute. On pourrait parler du sang, tout le Mishkan en parle, le sang, le rachat, le prix du rachat, l'or. Combien valons-nous ? La paracha de la semaine dernière, ou de cette semaine, je ne sais plus, parle de la manière dont on doit dénombrer. Ce n'est pas celle-là, hein ? Non. Vous savez ce que dit la Torah, justement ? Le péché qui a été commis dans le peuple d'Israël, ça a été de compter. Et le vrai dénombrement, vous savez comment il était fait ? Le dénombrement du cœur. Comment vais-je savoir que vous êtes un membre du cœur ici, dans cette Kehila ? Mais l'approfondissement va dire quelque chose. Parce que, bien sûr, on peut avoir un système affectif, relationnel, aimer le style, les chants hébreux, la pensée juive, revenir à la source... se ressourcer, on entend des choses différentes, un peu énervantes parfois, du monsieur, mais l'ensemble n'est pas trop mal, c'est intéressant, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous adhérez en tant que membre du cœur dans la vision. Comment vais-je le savoir ? Et Dieu est un être tellement extraordinaire dans la sagesse, qui nous dit que le vrai dénombrement se fait par le demi-shekel. Tu donneras, chaque famille, chaque personne devait apporter un demi-shekel. Celui qui appartient au peuple, c'est celui qui donnait son cœur. Celui qui s'investissait dans l'agriculture, dans la vie du pays, dans le développement, dans la vie spirituelle, qui s'engageait à mettre les commandements de Dieu en pratique dans sa vie sociale, personnelle, culturel, spirituel, et pas simplement 2 heures par semaine. Pas simplement 4 heures par semaine, mais quelque chose qui régissait sa vie. Et ça voulait dire, ce demi-shekel, que tu appartenais. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le shekel, qui est la monnaie d'Israël aujourd'hui, ressuscitée de la Torah. Ah ! Et c'est pourquoi il y a des gens qui donnent un quart de leur dîme enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui ne donne même pas, qui ne donne même pas, ou qui partage, qui ventile. Et ça, ça veut dire tu n'appartiens pas pleinement avec ton cœur au lieu. Parce que tu ne veux pas qu'il se construise, alors tu donnes partout. Ou alors tu ne donnes pas. Pour X raisons, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qui rentre. Enfin, si, je sais ce qui rentre, mais je ne sais pas qui donne ou pas. Je ne me suis jamais initié, et Chantal peut vous le confirmer, à savoir si vous donnez régulièrement ou pas régulièrement. J'ai une telle confiance en vous, une telle confiance en Dieu, telle confiance dans votre honnêteté, que je ne calcule pas. Je ne regarde pas. Je crois que je n'ai pas besoin de contrôler. Contrairement à d'autres qui exigent et qui vérifient. Et qui est courant, paraît-il, aujourd'hui. Très courant. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas le montant qui est important. C'est le fait que c'est ton cœur que tu mets, mais également un 10% pour tout le peuple, pour toute la nation, dans le pays, dans l'action, l'activité, dans ceci, dans cela. C'est ça que ça voulait dire, le demi-shekel. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de cœur. Quand on parle de l'Israël qui, en 1948, mais plus en 1947, il a été reconstruit non pas sur de l'argent que Israël a attendu que toutes les nations lui donnent après la Shoah. Ils ont été dans les marécages. Beaucoup sont morts, ont payé le prix. Beaucoup ont asséché, ont développé des technologies. Ce qui était un désert, un rocher, à l'abandon, un dépotoir, aujourd'hui est un des pays les plus agréables sur le plan touristique. Ce sont des hommes qui n'ont pas donné seulement que leur prière de loin. Ce ne sont pas des hommes qui ont dit « Seigneur, reconstruis le pays ». Nous croyons à ta puissance. Envoie des hommes, envoie des hommes. Pas moi, pas moi. Envoie les autres. Ah ben tiens, lui, je le vois bien. Toi, ce voisin-là qui m'énerve, s'il pouvait partir là-bas. Ce sont des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Ben Gourion vivait dans le Negev. Il n'a jamais eu ce que Sarkozy a possédé. Ariel Sharon aussi. On oublie ces hommes qui avaient l'amour de leur terre, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans l'accomplissement du futur. Alors je ne vais pas aller plus loin, mais les huit vêtements de l'âme, c'est ce qui nous montre ce que nous sommes face à Dieu et ce que Dieu voit de nous. Ce que Dieu voit de nous. Ce que Dieu veut voir en nous. Et non pas ce que je veux faire voir à Dieu. Ce que Dieu veut me faire voir. Continuera la semaine prochaine, mais là on ira dans la plus grande profondeur. On va plonger.